Sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas.
Oui, je reçois ce matin Philippe Charlier. Vous êtes médecin légiste, archéologue, anthropologue et vous menez des enquêtes historiques passionnantes pour France 5 où vous tentez de faire parler les morts. Ça s'appelle l'histoire au scalpel. Et alors là, ce jeudi, vous allez ouvrir un tout petit dossier. Vous vous intéressez à la mort de l'empereur Napoléon Bonaparte. Vous pensez vraiment, avant de commencer, qu'il y avait encore des choses à découvrir ?
Oui, il y a pas mal de choses parce qu'au-delà de la mort de l'empereur Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, il y a aussi toutes les conditions de sa vie, de son existence, quasiment 6 ans là-bas sur cette île perdue dans l'Atlantique Sud, et puis également des masques mortuaires, également des objets de sa vie quotidienne, et puis son visage aussi. On ignorait jusqu'à ce documentaire et cette étude scientifique quel était le véritable visage de l'empereur. Quand on regarde des peintures, des sculptures, des dessins, des gravures, il n'a quasiment pas le même visage. On le reconnaît, il y a un truc, mais c'est pas le même visage exactement. Et donc on a voulu retourner à la source et donner le premier portrait, la première photographie, en l'occurrence le premier film du vrai visage de Napoléon.
Et c'est ce qu'on voit à la fin, effectivement, et ce sont des images qui sont très impressionnantes. Et alors, le seul petit problème pour un médecin légiste comme vous, Philippe Charlier, c'est que le corps de Napoléon qui repose aux Invalides, il est vraiment totalement inaccessible. On pourra jamais y accéder, a priori.
Oui, pour des raisons architecturales et patrimoniales, on peut pas y accéder. C'est pas une omerta de la part du ministère de la Défense ou des Armées. C'est que le corps est au centre du monument des Invalides, dans une sorte d'amoncellement de poupées gigognes de cercueils, qui sont tous fusionnés les uns aux autres par du mortier et du béton. Donc c'est un monument qui a été construit dès le départ pour ne pas pouvoir être profané. Mais rassurez-vous, quand on est médecin, et honnêtement ma spécialité dépasse le simple cadre de la médecine légale, quand on est médecin, on peut utiliser des cheveux, des morceaux de peau, des masques mortuaires, des descriptions de procès-verbaux d'autopsie, d'exhumation, d'embaumement. Voilà, on a énormément de choses à se mettre sous la dent, si je peux dire. Plus l'archéologie, fouiller les latrines sur l'île de Sainte-Hélène de Napoléon, fouiller dans ses poubelles, aller investiguer sur tout ce qu'on a pu trouver qui a été touché, mangé, approché par lui, que ce soit des bonbons à la réglisse, les feuilles de thé qu'il buvait ou de café, les bouteilles de vin de Constance qu'il faisait venir d'Afrique du Sud, les petits pots de crème dont il se tartinait, et même on est allé jusqu'à gratter ses chaussures et sa baignoire sur l'île de Sainte-Hélène.
Donc
on l'a reconstitué, si on peut dire, sans avoir le cadavre stricto sensu.
Parce que vous êtes vraiment donc allé à Sainte-Hélène, c'est pas un voyage très simple, il faut le dire.
Ah oui, non, c'est pas au bout du RER. Ah non,
voilà, c'est ça, faut passer par Afrique du Sud, et puis bon, maintenant il y a un petit aéroport sur place.
Il y a un petit aéroport, le voyage est moins long, mais c'est Paris-Johannesburg, une nuit à Johannesburg, ensuite un vol jusqu'au Botswana, on fait une pause technique pour prendre de l'essence, pour pouvoir tourner plusieurs fois, parce que si jamais on n'arrive pas à se poser sur Sainte-Hélène, il faut aller sur une autre île.
Il y a énormément de vent là-bas.
Voilà, il y a beaucoup de vent, on fait que 2 tentatives d'atterrissage, et au bout de 2 infructueuses, on va sur une autre île qui est Asuncion, et on attend 1 semaine pour repartir.
C'est incroyable. Et donc vous avez fini par pouvoir vous poser là-bas et visiter donc sa maison de Longwood, enfin vraiment la visiter complètement, puisque vous avez fait donc des fouilles archéologiques sur place. Il n'y avait jamais eu de fouilles réalisées là-bas.
Non, il n'y avait jamais eu de fouilles, il y avait eu des restaurations ponctuelles. La maison est maintenant dans un très bon état, et grâce à une convention qu'on a signée avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, eh bien, on a pu faire des fouilles archéologiques, à la fois dans Longwood, réouvrir également le tombeau de l'empereur dans la vallée des Géraniums, et donc l'investiguer, voir des graffitis qui ont laissé dedans, etc. Et puis, travailler également au Briars, qui est la première propriété dans laquelle il a séjourné quand il est descendu du bateau, avant que Longwood ne soit terminé.
Et c'est vrai que c'est assez surprenant de vous voir frotter avec un simple coton-tige, comme ça, le fond de la baignoire de Napoléon, en espérant retrouver encore quelque chose 200 ans après. Mais le pire, c'est que ça marche, les analyses donnent des choses intéressantes.
Oui, les analyses donnent des choses intéressantes. Alors, on montre aussi dans ce documentaire quelques résultats négatifs. On ne trouve pas tout le temps, bien évidemment. C'est 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Mais malgré tout, on progresse. Et oui, la baignoire nous a permis de mieux savoir quel était l'état de santé de cet individu, mais également avec quel traitement il essayait de guérir la maladie de peau qu'il avait attrapée probablement quand il a fait l'expédition d'Égypte ou pendant le siège de Toulon, et qu'il a gardé malheureusement pendant une grande partie de sa vie. À chaque fois, en fait, on utilise toutes les techniques de la médecine. C'est pour ça qu'au-delà de la médecine légale, c'est vraiment une sorte de santé publique, si on peut dire, qu'on applique à ces restes-là, pour déterminer l'état de santé de cet individu, mais aussi de la petite population, la petite cour qui était autour de lui à Longwood, la famille Bertrand, le cheikh, enfin pas le cheikh Ali, le mamelouk Ali, etc. Donc tous les gens
qui étaient... Il avait recréé vraiment une cour autour de lui.
Avec... Oui, il n'aimait pas être seul. Alors il avait des moments où il aimait être seul, mais il aimait en tout cas continuer à rayonner, à être le
Alors
centre des attentions.
Dans des conditions très spartiates.
Alors Longwood, honnêtement, maintenant ça se visite, c'est assez sympa, mais à l'époque, c'était humide comme c'est pas possible. Il y avait les rats qui couraient sous le palier, ouais. plus ou moins bouffés par les termites. Il y avait les draps au niveau du mur qui étaient infestés par la vermine et par l'humidité. Et puis surtout, c'était le bout du monde. Pendant un certain temps, il a cru qu'il pouvait revenir et organiser son retour, la récupération de son trône et une position stratégique au sein de l'Europe. Et puis très vite, il a sombré dans une dépression, puis une mélancolie. Mmh. On ne vous donnera pas la fin et la chute de cette enquête scientifique et du documentaire, mais tout conspirait malheureusement à ce qu'il ne revienne pas vivant de Sainte-Hélène.
Et ce qui est très impressionnant, c'est comme vous arrivez avec les experts à faire parler un micro fragment du papier peint de la chambre de Napoléon ou une toute petite tache sur une chemise de l'empereur. Après, vous le disiez, il y a parfois des déceptions, comme les bandelettes de l'autopsie de Napoléon auxquelles vous arrivez à avoir accès, mais qui ne donnent pas grand-chose. Mais c'est vraiment passionnant de suivre votre enquête. C'est en fait une nouvelle manière surtout de raconter l'histoire en la croisant avec une enquête scientifique. C'est ça ce que vous avez voulu faire, c'est rendre aussi l'histoire accessible à tous et puis s'inspirer un peu de cette mode autour des thrillers, des enquêtes qui foisonnent à la télévision aujourd'hui.
Oui, totalement. C'est vraiment les sciences biomédicales au service de l'histoire. Chacun de ces différents épisodes de l'histoire au scalpel et chacune de ces études scientifiques, qui fait l'objet d'ailleurs de publications scientifiques, c'est une façon de revisiter main dans la main avec les historiens et avec les historiens de l'art toujours ou les archéologues, eh bien des cold cases comme vous l'avez dit ou des problèmes historiques. Vérifier d'abord si l'histoire nous dit la vérité, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des erreurs de transcription, il y a un récit mythologique qui s'installe au fur et à mesure, et puis également approcher, si on peut dire, d'une façon extrêmement réaliste ces personnages historiques. On a maintenant le véritable visage de Napoléon Ier. On est en train de travailler en ce moment à la reconstitution de la voix de Henri IV à partir de sa tête momifiée. On arrive à lui faire dire des premiers phonèmes. On modélise son larynx en trois dimensions. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que cet ensemble de cas, je porte le projet de création d'un musée dans l'Ouest parisien qui va synthétiser et mettre pas côte à côte, chacun de ces personnages historiques dans une sorte de grande galerie qui sera une sorte d'institut des sciences au service de l'histoire.
Eh bien, regardez l'histoire au scalpel, Napoléon à Sainte-Hélène. Le dernier acte est diffusé jeudi sur France 5 à 21h10. Restez avec nous, Philippe Charlier, pour suivre l'actualité des médias.
Oui, puisque dans un instant arrive le journal des médias de Julien Pichenet. Alors, vous savez que Jarry va quitter cet été la présentation de Tout le monde veut prendre sa place. On vous l'a annoncé ici sur Europe 1. Eh bien, on connaît depuis ce week-end le nom de son successeur. On en parle dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, c'est